Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Roussanou.
Verratti, il a tué la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'Afterfoot. François Pinet.
22h04 de retour dans l'after, c'est jusqu'à minuit. Jonathan Macardy, Damien Perrinel, Kevin Diaz, continuez à nous appeler au 32-16 d'ailleurs si vous avez un vœu pour 2020 sur le hashtag mon vœu foot 2020. Il y a Idriss qui nous dit que l'OM redevienne un grand d'Europe. Ce sera peut-être pas pour 2020.
Hein, ouais, il va falloir des années. Hein.
Mais
voilà. On parlait de championship. Ouais, oui. J'ai un vœu, c'est que Leeds monte. Hein.
Leeds monte, oui. Leeds qui jouait aujourd'hui d'ailleurs. Je crois qu'ils ont fait match nul un partout. Dans 30 minutes, on parle d'un des événements de cette année, l'Euro 2020. À quoi ressemblera l'équipe de France? Giroud, Dembélé, Benjamin Mendy, Thauvin, Umtiti, Loris, Pogba. Il y a beaucoup de joueurs blessés ou en difficulté. On en parle avec vous au 32-16. Et puis bien sûr, la Première Ligue, 21e journée en ce moment. Arsenal-Manchester United, Clément Brossard.
Ça a repris depuis 3 minutes là en seconde période. Arsenal qui mène toujours 2-0. Donc grâce à Nicolas Pépé, 8e minute, et Sokratis à la 43e minute. 2-0, c'est amplement mérité pour ces Gunners. Manchester United n'a rien montré, il va falloir faire mieux pour la bande d'Ole Gunnar Solskjaer. 48e minute, 2-0 pour Arsenal face à Manchester.
Merci Clément, on en parle à 23h avec notre drôle de dame Julien Laurence. Mais d'abord, on va désigner le transfert de la décennie. Alors c'est pas qu'une question de chiffres, hein. Il suffit pas de regarder les chiffres parce que ça serait trop facile. C'est le transfert qui pour vous, vous a le plus marqué, le transfert qui a peut-être révolutionné une équipe, qui a changé la donne au niveau des transferts, le transfert qui vous a le plus surpris. Si on en parle aujourd'hui, c'est évidemment parce que c'est l'ouverture du mercato hivernal. Vous nous le dites au 32-16 sur le hashtag une décennie de mercato. Il y a déjà plusieurs réactions. On va les lire dans un instant. Je vous rappelle juste qu'en 2001, Zidane était recruté par le Real pour 75 millions d'euros. C'était le plus gros transfert de la précédente décennie. Ensuite, il a été battu par Cristiano Ronaldo en 2009. Puis depuis, c'est l'inflation. Hein. Les 9 plus gros transferts ont tous été réalisés lors des 4 dernières années. Pour vous dire à quel point aujourd'hui on met beaucoup, beaucoup d'argent. Et juste une petite info chiffre encore. Dans la décennie, c'est City qui est le club le plus dépensier avec plus d'1,5 milliard d'euros dépensés sur cette décennie devant le Barça, Chelsea et le PSG. Voilà.
C'est curieux quand même pour le Barça parce que eux qui ont une réputation de club formateur de faire monter
ces dernières années là.
Mais c'est vrai que ils dépensent quand même beaucoup.
1,5 milliard dépensés sur les 10 dernières années pour le Barça. Qui est pour toi, Jonathan, le transfert de la décennie?
On peut en avoir plusieurs parce que c'est difficile d'en ressortir un. Mais un transfert qui pour moi a été le plus important pour la Ligue 1, c'est l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic au PSG. Parce que c'est vraiment le transfert qui a fait passer le Paris Saint-Germain dans une autre dimension médiatiquement parlant. C'est là où on s'est vraiment rendu compte que le projet était plus que sérieux et qu'ils allaient vraiment faire une équipe de stars. Et je pense que le transfert de Zlatan a auguré du transfert suivant de Neymar. Donc c'était un vrai choc que d'avoir Zlatan. Et il faut juste se rappeler à cette époque qui était Zlatan Ibrahimovic. C'était tout simplement le meilleur attaquant au monde.
Ouais, il restait sur une saison incroyable à l'AC Milan. Exactement. Il avait été champion aussi avec Milan. Donc ils avaient réussi à le récupérer. D'ailleurs, Zlatan le répète souvent. Il n'avait pas envie d'y aller. Ouais. Hein. Voilà. C'était 20 millions d'euros à l'époque. Hein.
Ouais, j'avais hésité, moi, si on restait sur un transfert français, par exemple. Pour moi, c'était celui peut-être de Pastore, qui est vraiment la première recrue Leonardo au PSG pour 40 millions, il me semble, 42 millions certainement à l'époque.
Alors que Chelsea, donc, 42, tout le monde pensait qu'il allait aller à Chelsea.
C'est ça.
En fait.
Et voilà, pour moi, c'est vraiment le premier joueur de la nouvelle ère.
C'était pas un joueur confirmé encore.
Non, mais ça va être de pouvoir l'attirer, un jeune joueur comme ça, fort potentiel. Je trouve que ça marquait tout de suite déjà une empreinte du PSG.
C'était en 2011 effectivement que Pastore arrivait, mais c'est vrai que c'était pas la star.
C'était déjà. Rappelez-vous, le mercato avait été très.
Il venait de Palerme.
Très sérieux, mais pas non plus avec beaucoup de stars. C'est là où il y a Matuidi qui arrive, il y avait Momo Sissoko, il y a Lugano aussi, et ils prennent Pastore dans les derniers jours du mercato, qui était quand même un vrai beaucoup, considéré la concurrence qu'il pouvait avoir face au PSG.
Ouais, après, messieurs, je suis d'accord pour dire que c'est des transferts importants, que ce soit Zlatan qui déclenche un peu la starification à l'extrême au niveau du Paris Saint-Germain, ou Pastore pour la qualité de recrutement, notamment instauré par Leonardo. Mais bon, le transfert du siècle, que ce soit en France ou à l'étranger.
Ah, du siècle, toi, carrément. Siècle. Nous, on avait dit la décennie, mais toi, c'est le transfert du siècle.
Ouais, de la décennie, voire du siècle pour l'instant. au niveau du prix, au niveau de la surprise engendrée. Voilà, Jonathan en a parlé, je pense que c'est Neymar, 222 millions d'euros. Faut se rappeler qu'à l'époque, c'était une clause qui était pas forcément faite pour être payée, mais ce qu'a réalisé le Paris Saint-Germain à ce moment-là, c'était tout simplement exceptionnel. Alors certes, derrière, on va dire oui, peut-être ça a été trop négatif dû aux blessures, au comportement, etc.
Mais le transfert en lui-même, oui, t'as raison.
Mais le transfert en lui-même, il est tout simplement exceptionnel. Et il faut rappeler quand même que c'était un énorme coup, peut-être trop gros, mais un énorme coup réalisé par le Paris Saint-Germain. Voilà.
Il n'y aura plus jamais de transfert à 222 millions.
Si, peut-être, mais en tout cas, c'était le premier.
Et puis,
mais c'était même pas que ça, François. En fait, c'est la surprise. Que Neymar a 20, je crois qu'il avait 24 ans ou 24 ou 25 ans.
25, ouais.
Ouais, 25 ans.
Je veux dire, vraiment, en pleine position de ses moyens, choisissent le projet du Paris Saint-Germain, même si bien sûr le chèque était énorme. Franchement, c'était pour moi une surprise exceptionnelle et quand même un énorme coup réalisé par le Paris Saint-Germain. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé avec les blessures,
ça peut encore, l'histoire peut encore être belle.
Voilà. Et il gagne la Ligue des Champions cette année.
Je sais pas si on peut mettre que des joueurs, mais je pense aussi que l'arrivée de Jurgen, même c'est pas un transfert, on pourra pas en parler, mais l'arrivée de Jurgen Klopp à Liverpool, c'était aussi un superbe coup dans la mesure où tout le monde pensait que Jurgen Klopp était en repos et qu'il était prêt à prendre le Bayern.
Surtout ce qu'il a fait après, quoi.
Et puis de le voir finalement arriver en Angleterre, à Liverpool, que ce soit une combinaison parfaite entre sa personnalité, le style de jeu pratiqué, l'ambiance en field, je pense que ça a vraiment révolutionné ce qu'on voit sur la européenne depuis des années.
Moi, j'avais un transfert, le transfert de la décennie pour moi, il est pas en France, c'est Van Dijk à Liverpool, 84 millions d'euros pour un défenseur, depuis il a été battu par Maguire, c'était énorme à l'époque, c'était
un mercato d'hiver plus, François.
Le plus cher
devait y aller en été déjà.
Alors qu'il venait de Southampton, donc bon, il y avait pas forcément, en tout cas Liverpool avait bien vu, mais il n'avait pas les références auxquelles on pouvait s'attendre, et il a révolutionné Liverpool. Pour moi, alors il y a eu Klopp, bien sûr, il y a eu le gardien aussi Alisson qui a été recruté très cher, mais Liverpool avait besoin à ce moment-là de défenseurs, ils avaient besoin de solidifier leur défense pour gagner, pour aller loin. Ils ont pris Van Dijk à Southampton pour un chèque énorme. Et il a fait gagner Liverpool. Donc pour moi, c'est quand même un transfert qui a modifié les choses.
Raison,
et qui a modifié quand même les choses dans l'Europe du foot.
On en parlait un peu avant l'émission. Moi, j'y avais pas forcément pensé, puisque j'avais pensé en premier à Neymar, comme je viens de le dire.
Étonnant pour toi, parce que.
Non, mais après,
Hollandais.
Toi, tu me disais, je le connaissais pas du tout. Moi, pour le coup, je le connaissais un peu, forcément. Mais c'est quelqu'un qui a eu une carrière intéressante en passant par le Celtic Glasgow pour s'aguerrir un peu en Écosse et ensuite Southampton en première ligue. Mais dans le registre bling bling, donc j'avais mis Neymar parce que voilà, c'était exceptionnel, et dans les cas comme ça de joueurs qui non seulement ont été une greffe qui a tout de suite pris et qui a vraiment aidé sur le plan du football, vraiment sur le terrain, l'équipe, pas dans la vente de maillots. Et j'ai pensé du coup, en discutant avec Luigi Collange, avec qui j'ai commenté un match, et on parlait de N'Golo Kanté à Leicester. Mm-hmm. Mais N'Golo Kanté, lorsqu'il est à Caen, il doit aller à l'OM. Je sais pas si Johan.
Rappelez-vous l'épisode avec le Monchi du Calvados, la lettre que Vincent Labrune avait écrite à Xavier Gravelaine, parce que justement les négociations stagnaient et que Labrune ne voulait pas mettre la somme demandée.
Les choses sont bien plus compliquées qu'une simple histoire de lettres pour le transfert de N'Golo Kanté.
La lettre, c'était
à
l'anecdote.
Et il voulait pas aller à Marseille.
Ouais. Bon, après, mais bon, en tout cas, il devait quand même aller dans un grand club français de Caen. Et bon, je dois bien avouer que j'ai un petit côté affectif parce que je connais notamment la personne qui l'a fortement conseillé à Leicester, qui a été la même qui a fortement conseillé Mahrez lorsqu'il était en Ligue 2 au Havre. Il a le nez. Mais le transfert de N'Golo Kanté à Leicester, qui ensuite devient un des meilleurs joueurs du monde et qui gagne la Première Ligue avec ce club, c'est quand même exceptionnel.
C'est vrai, c'est une belle histoire. C'est la belle histoire des transferts peut-être de ces dernières années.
Non, pour moi, je triche. Remarque, non, c'est la dernière décennie, on a encore le droit. Pour moi, le transfert qui a révolutionné, c'est le transfert de Cristiano Ronaldo de Manchester 2009, United à
2009, t'as le droit. Effectivement, les puristes pour la décennie, normalement 2010, c'est jusqu'à la fin de l'année 2020, donc 2009-2019, si tu veux.
C'est-à-dire que c'était un transfert déjà à 94 millions d'euros, il me semble, à l'époque.
Oui, c'est ça.
Et qui a révolutionné l'histoire du Real Madrid avec les trois Ligues Champion, même 4 peut-être.
L'histoire
de football, tout, non. Donc franchement, ce transfert-là est pour moi représentatif du gros coup aussi réalisé par le Real. Et un dernier, c'est celui de Bale, pour moi, de Tottenham au Real. Pourquoi ? Parce qu'on atteint la barre des 100 millions et derrière,
c'est vrai.
En fait,
2013.
Ça part, tout part.
100 millions avec Bale, on pensait que c'était déjà.
Moi j'ai une question.
Une limite, et ben finalement on l'a dépassé de beaucoup. Depuis.
Est-ce que Bale est une réussite au Real ou pas ?
Non. C'est à demi-teinte. Parce qu'ils ont quand même, il a quand même été décisif en finale de Ligue des Champions. Mais c'est, pour comparer l'investissement, c'est.
Pour moi, c'est une réussite.
C'est demi, ouais, mais on s'attendait à mieux quand même.
Pour moi, je m'attendais à mieux. Réussite. Ouais. Pour moi, c'est une réussite. Un mec qui marque, il a marqué, je crois, 150, 160.
Je dis pas que c'est
buts,
pas une réussite, mais je dis qu'il m'avait fait entrevoir de meilleures choses.
Quand il était à Tottenham, là, rappelez-vous, l'aller-retour contre l'Inter, là. C'est une vraie bombe. Et un transfert que vous avez détesté. Ah bien.
Alors, on va demander peut-être aux auditeurs 32-16. Vous réfléchissez. Il y a par exemple d'autres idées là sur le hashtag une décennie de mercato. Martial à Manchester United, transfert qui a changé les mercato. Bon, il avait été recruté très très jeune, c'est vrai, à 19 ans, pour plus de 60 millions d'euros. Il y a un transfert de la décennie qui compte aussi. Je crois que c'est le transfert de Zlatan au Barça. Avec l'échange avec Eto'o.
Ah ouais, ouais.
C'est Nicolas qui nous dit ça. C'est vrai que c'était en 2009, ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait eu cet échange et Zlatan ne gagnera pas la Ligue des Champions.
Alors, contre Eto'o, Eto'o.
Voilà. Neymar au PSG, évidemment, nous dit François
Benjamin.
Il y a personne
qui s'y tire qui s'accueille.
Non, Agüero à City, nous dit Romain Dupontel. Suarez au Barça pour Coutinho. Voilà, il y a plusieurs idées. Gros au Real pour une bouchée de pain, nous dit Max Bay.
J'ai aussi une idée de transfert en parlant de c'est Agüero qui me fait penser, mais c'est Carlos Tevez, un Jonathan qui avait été un de ses premiers joueurs acheté par une compagnie. Tu vois, une compagnie qui le revend.
Mascherano, les deux. Ouais.
Voilà, c'était ses premiers montages un peu obscurs qui ensuite ont un peu.
Mais ça, c'était le décennie précédent.
Ouais.
Voilà. Fabrice est au 32-16 à 22h15 dans l'after. Bonsoir, Fabrice.
Bonsoir, les gars. Bonne année, bonne santé.
Bonne année à toi,
Fabrice.
Tout nouveau, plein de bonheur. Pour le transfert de la décennie pour toi, en tant que supporter du PSG, j'ai une petite idée de la réponse, mais vas-y.
Ouais, mais je veux pas être original, les gars. Dans le sens où il y a Neymar qui arrive au Paris Saint-Germain, c'est le plus gros transfert de tous les temps. Voilà, donc pour moi c'est vraiment pas une surprise. Voilà. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'il est brésilien, parce que il est fantastique, parce que les techniques, enfin c'est tout ce que ça engendre Neymar. Après, moi il y en a un autre qui m'a vraiment fait plaisir en tant que supporter. Parce que moi, j'ai deux clubs de cœur. J'ai l'Ajax Amsterdam et le Paris Saint-Germain. Donc, en 2001, je regarde un Ajax Amsterdam. Et il y a un joueur qui éclate de sa classe. C'est Zlatan Ibrahimovic qui fait son premier match de Ligue des Champions et il marque deux buts. Et dans son nom, derrière, il est marqué Zlatan. Il n'y avait pas encore marqué Ibrahimovic. Je fais, c'est quoi ce joueur de classe et tout? Et après, on connaît la carrière qui se passe avec l'Inter, la Juventus, Barcelone, etc. Et je dis, mince, si un jour il vient au Paris Saint-Germain, ça serait vraiment grandiose. Et le truc, c'est que ça s'est passé en juin 2012. Et franchement, pour moi, c'était vraiment une grande surprise. Et
c'est celui qui t'a donné le plus de joie, c'est lui ou Neymar?
Comment?
Le plus de joie qui t'a été procuré, c'est quand c'est Zlatan ou c'est quand c'est Neymar qui arrive au PSG?
Franchement, je suis partagé.
Et le plus de frustration?
Neymar.
Pour l'instant, c'est Neymar.
Zlatan, en Champions League, tu pouvais t'attendre à autre chose et qu'il te fasse passer un crap. Il a été ultra frustrant, Zlatan.
C'est
là pour quelques buts importants.
Avec l'effort.
Voilà, exactement.
C'est vrai, c'est souvent ce qu'on
disait. Mais après, il y a un transfert que vous n'avez pas cité et franchement qui a marqué la décennie. Et pour moi, c'était à ce moment-là, c'était le meilleur avant-centre du monde. Il vient à
Falcao.
Monaco.
Falcao.
C'est Falcao, il n'y a même pas photo, quoi.
Ouais, mais
je pensais
vraiment
un gag.
C'était lui ou Cavani, les deux meilleurs neufs du monde, ouais.
Et pour moi, il y avait deux.
C'est
deux
vrai, t'as raison.
Ouais, mais Falcao, on l'a pas cité parce que malheureusement, avec cette fâcheuse blessure, ensuite, il a quand même.
Il est croisé.
Il est quand même un artisan majeur du titre.
Mais quand il arrive de l'Atlético de Madrid, c'est vrai que c'est.
C'est lui ou Cavani,
le meilleur numéro 9.
C'est lui ou Cavani, le meilleur.
Et les gars, il y a quand même. Un gars dont on n'a pas encore cité le nom, et moi j'y ai pensé cet après-midi, même si forcément il est éclipsé par celui de Neymar, mais le transfert d'Mbappé à 180
millions.
Eh
ben on va en parler, tu fais une transition parfaite Kevin. Merci beaucoup Fabrice.
Ciao Fabrice.
À bientôt les gars.
À bientôt et bonne année encore. Tariq justement est au 32-16 et je crois qu'il veut parler de Kylian Mbappé, supporter du PSG. Bonsoir Tariq.
Ouais, bonsoir à tous.
Salut Tariq.
Bonne année à toi.
Désolé, je t'ai piqué ton idée.
Ben non, mais il va justement, c'est une passe décisive de Kevin Diaz.
Les grands esprits se retrouvent.
Merci.
Donc pour toi, c'est le transfert de la décennie, c'est celui d'Mbappé au PSG.
Oui, pour moi, c'est clairement le transfert de la décennie. Déjà parce que quand on a réussi à l'avoir, je pense qu'il y avait pas mal de clubs qui se l'arrachaient. Que ça soit le Real, le Barça, City qui était dessus, mais plus le Real qui était dessus, on a réussi à l'arracher. Et c'est le transfert de la décennie parce que c'est un joueur d'avenir, parce que je pense que sur le marché des transferts encore maintenant, c'est le joueur qui coûte le plus cher en termes de valeur encore maintenant, contrairement à Neymar. Pour moi, quand Neymar est arrivé, oui, c'était le transfert du siècle, parce que c'était inimaginable, c'était incroyable, mais malheureusement, pour l'instant encore, c'est un flop. C'est pour ça que moi, je mets encore Mbappé au-dessus du transfert de Neymar. Et voilà, ce type, pour tout ce qu'il apporte, l'aura qu'il a derrière lui, le charisme qu'il a, le fait qu'il ait gagné la Coupe du Monde en étant au PSG, pour moi, c'est le transfert de la décennie.
Ouais, mais tu vois, Tariq, je vais rebondir là sur un truc, quelque chose que tu viens de dire justement, c'est Neymar, pour l'instant, pour moi, c'est un flop. À partir de quand on estime qu'un transfert est marquant, justement, une fois que le joueur a fait son temps au club, ou alors au moment où la transaction est faite.
Il y a le supporter d'avant qui parlait d'Ibra. Je pense qu'Ibra, on aurait pu dire que ça aurait été une réussite qui nous aurait fait passer un cap en Ligue des Champions. C'est-à-dire marquer des buts importants, nous faire passer le cap des quarts de finale, demi-finale, voire finale. Je ne dis pas obligatoirement la gagner, mais nous faire franchir un cap sur la scène européenne, et ça n'a pas été son cas. Donc pour moi, ça ne peut pas être le transfert de la décennie. Mais Neymar, pour moi, ce ne sera pas un flop. Là, si cette année, même il part au Barça, mais du moment qu'il nous fait passer le cap des quarts de finale, demi, voire finale, je dirais que finalement, ça n'a pas été un flop. Mais pour l'instant, c'est un flop total. Il peut mettre 100 buts, 150 buts en Ligue 1, tant qu'il ne nous fait pas franchir le cap en Ligue des Champions. Pour moi, ça aurait été un flop. En plus, c'est devenu tellement facile de mettre une tonne de buts. Là. J'ai vu que Mbappé, il est arrivé... Il a égalé le transfert de le record de buts de Bianchi, il me semble.
Ouais, sur l'année civile, oui.
Donc pour moi, ça veut tellement plus rien dire du tout avec le niveau du championnat qu'on a, les valises de buts qu'ils mettent, que ça soit Ibra, bon, Cavani, c'est autre chose, mais Ibra, Mbappé, etc. Là, tous les derniers joueurs de Mercatari, pour moi, c'est voilà.
Bon, et
le truc qui va nous faire franchir un cap, c'est la scène européenne. Sur la scène européenne.
Et j'imagine qu'un vœu 2020 pour toi, Tariq, ça serait de pouvoir conserver au moins Kylian Mbappé une année de plus.
Ouais, non. Je pense que c'est bien parti.
D'accord. Eh ben écoute,
salut Tariq.
On te le souhaite. Merci beaucoup d'être passé dans l'after.
Ouais, mais merci, meilleur vœu à vous.
Toi, meilleur vœu.
Par
meilleur
rapport
vœu
à Tariq. On dit le vœu de Tariq serait que Mbappé reste. Enfin, moi, demain, supporter du PSG, je veux que le PSG gagne. Peu importe si Mbappé ou Neymar est là ou pas là ou parti.
Bah, c'est plus facile de gagner avec Kylian Mbappé que sans.
Peut-être, ouais, quoique, tu sais pas, peut-être que tu peux avoir une meilleure équipe globale, plus équilibrée, si tu laisses partir Mbappé, que tu prends 3 jours. Encore, voilà, je veux dire, dans les vœux des supporters, moi, je préférerais que mon équipe gagne,
oui,
en soi.
Bien sûr.
Plutôt qu'un joueur ou une individualité, comme c'est le cas aujourd'hui dans les clubs de foot, quoi.
Oui, c'est vrai.
Il y a aussi le transfert de Gignac, qui est quand même à souligner. Non, mais sans déconner. Enfin, c'était pas un transfert parce qu'il arrive libre, pas un précurseur parce qu'il a déjà été fait avant. Ouais.
Le problème, c'est qu'on sait que t'es fan. Donc,
non, mais non, non, il a un pas mec tort. Qui est des offres c'est vrai, de clubs européens importants.
C'était une grosse
important.
Surprise au moment où il s'est
mis
là. C'est vrai.
C'est beau ce qu'il a fait là-bas.
C'est un choix de mec qui kiffe vraiment le foot. Quoi.
Et on le dit maintenant parce que c'est vrai que c'est une réussite.
En plus, ouais. Flop pour moi de la décennie.
Ah bah vas-y.
Je serais d'accord. Un certain joueur qui n'est pas très connu peut-être en France, mais pour ceux qui sont fans de la Première Ligue, un certain Andy Carroll,
ah oui.
Qui en 2010 est vendu pour 41 millions d'euros, mais c'était Liverpool, énorme. Ouais. C'était énorme à l'époque.
Hein. Ouais. Et t'en as un autre, Torres.
Torres
à Chelsea.
Le plus gros flop pour moi, et je ne sais pas si ça rentre dans la... Mais je pense que ça rentre dans la décennie, c'est le plus frustrant, ce que vous voulez, c'est Johan Gourcuff à Lyon. C'est une catastrophe industrielle.
C'est vrai.
Quand il arrive, c'est 25 millions.
25
ils font
millions,
un mercato
beaucoup,
de porciner Lyon cette année. C'est là où ils prennent Lisandro Lopez.
Avec
Baffé Gomis. Ouais, mais bon.
Bah, c'était en 2010.
Rappelez-vous qui était Gourcuff à ce moment-là. C'était le nouveau Zidane. Ouais. Strootman, on s'en fout, quoi, tu vois, mais Gourcuff, non, c'était vraiment exceptionnel. La manière dont il jouait, mais rappelez-vous le but en Roumanie, quoi. C'est un génie à l'époque.
J'ai un joueur qui a été un flop et qui est en train de devenir une réussite dans un autre club.
Ah.
Et il s'appelle Romelu Lukaku, qui a été quand même un gros flop lors de son gros transfert pour Manchester.
On va dire que c'était un flop que dur. C'est difficile, non, Kevin? Non,
le prix du transfert, c'était 80 millions.
Hein. C'est pas non plus infamant ce qu'il a fait là-bas.
Mais bon, je trouve qu'aujourd'hui, il est quand même largement.
Mais c'est pas infamant ce qu'il a fait à United.
Pas que c'est infamant, mais rapport qualité-prix, c'était difficile.
22h23 dans l'after, direction l'Emirates. Arsenal, Manchester United, Clément Brossard.
Encore 25 minutes à jouer. Arsenal qui mène toujours 2-0 dans ce match de la 21e journée de Premier League face à des Red Devils qui reprennent petit à petit des couleurs grâce notamment à ses joueurs vifs et jeunes. Mason Greenwood et Andreas Pereira sont entrés en jeu. Le Brésilien qui a fait trembler le petit filet extérieur de Bernd Leno il y a quelques minutes, qui a fait trembler dans le même temps l'Emirates Stadium qui pensait voir Manchester United revenir au score. Et depuis 10 minutes maintenant, ce sont bien ces Red Devils qui tentent de recoller, tentent de revenir à 2-1. En vain pour l'instant. 67e minute, 2-0 pour Arsenal face à Manchester. Pépé et Socratis pour les buteurs.
Merci beaucoup Clément. Salut, on reviendra Clément. Évidemment sur cette 21e journée de Premier League avec Julien Laurent. Ça sera à 23h. Mais tout de suite dans l'after, on se projette sur l'un des événements foot de 2020, l'Euro 2020. À quoi ressembleront les Bleus à l'Euro? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. François Pinet.
Feliz Año Nuevo.
Bonne année à tous.
Feliz Año Nuevo.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année.
Feliz Año Nuevo. Bonne année.
Bonne année à tous de la part de Paris Saint-Germain.
Les vœux du PSG, vous avez reconnu sans doute Thiago Silva, Cavani, Meunier, voilà, qui ont souhaité une bonne année à tous les supporters du Paris Saint-Germain sur Twitter. D'ailleurs, si vous voulez continuer à fêter avec nous cette nouvelle année, vous pouvez nous envoyer vos vœux 2020 sur Twitter, bien sûr. Et puis, puisqu'on parlait du transfert de la décennie, tiens, il y a cette idée de Yacine Sedraoui. Tu parlais de Cristiano Ronaldo qui arrive au Real. Lui, il dit que le transfert qu'il a le plus surpris, c'est celui de Cristiano Ronaldo qui quitte le Real pour aller à la Juve. C'est vrai que ça ne tendait pas forcément à ce qu'il s'en aille de la Juventus.
Et puis avec une somme aussi à 100 millions, je crois, ou 115 millions, pour aller à la Juve. Un joueur de 34 ans, c'est une grosse somme.
On suit également la Première Ligue, Arsenal Manchester United. Il reste 20 minutes à jouer, Clément Brossard.
Une petite stupeur quand même dans l'Emirates Stadium. 20 minutes encore à jouer, 2-0 pour Arsenal, mais on n'était pas loin d'un penalty là pour les Red Devils. C'est Wan-Bissaka qui s'est introduit dans la surface de réparation d'un petit piqué qui a semé les deux défenseurs qui venaient sur lui. Il y a eu un petit accrochage, allez, ça s'est touché en tout cas entre Wan-Bissaka et Aubameyang. On a d'abord vérifié à l'assistant vidéo au VAR. Évidemment, c'est une histoire d'amour entre la Première Ligue et la vidéo, et finalement pas de pénalty. On en reste à 2-0 pour les Gunners. Il reste 20 minutes à jouer.
Et Antoine, qu'est-ce que c'est bien arbitré de pas siffler ce pénalty? Clément, qu'est-ce que c'est mal arbitré, qu'est-ce que c'est bien arbitré, parce qu'il y a pas mal de, il y a pas mal d'arbitres dans certains championnats qui, au vu de ce léger contact, auraient sifflé un pénalty. Ça a été le cas il y a pas si longtemps entre Metz et Marseille.
La différence, Kevin, avec les autres arbitres, c'est que là, il n'a rien dit sur le coup. Il n'a pas sifflé pénalty. Il a pris du recul. Il s'est détaché de tous les joueurs. Il a dit attendez, je mets la petite main à l'oreillette. Je vois ce qu'on me dit après le visionnage de ces vidéos, et après je prends ma décision. Et depuis certaines semaines, depuis le Boxing Day même, on voit des décisions arbitrales qui sont prises sur le fait, sur le moment M, sur l'instant T, et du coup on se dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a sifflé, alors on revient sur la décision ou pas? Là il n'a rien dit, il a pris du recul, sur lui. C'est une bonne décision.
De toute façon, en Angleterre, c'est beaucoup mieux parce que déjà, il n'y a pas de moniteur au bord du terrain pour l'arbitre qui est le numéro 1, tu vois. Ça veut dire que il a pas à aller se revoir. C'est pas à lui pour moi d'aller revoir. S'il y a quelqu'un
qui trouve ça mieux, toi.
Ah, c'est largement mieux.
Et c'est plus lui qui arbitre du coup là, Kevin.
Mais peu importe en fait. Bon, alors je vous donne mon anecdote. Je voulais pas la donner forcément aujourd'hui, mais pas si longtemps, j'étais sur une plage de Guadeloupe, une très belle plage qui m'avait été conseillée par le grand boss, c'est-à-dire Gilbert Bribois.
On se refuse rien.
Il y a deux jours, qui est-ce que je croise? Tout à fait par hasard, je cours et je discute avec quelqu'un dans mon footing, un arbitre de Ligue 1. Un arbitre assistant de Ligue 1.
On veut un nom?
Non, un arbitre assistant qui travaille avec Clément Gauthier. J'en dirai pas plus. Et on a discuté longuement du VAR, et ils sont d'accord. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être le moins possible interrompu. Eux, ils jugent à l'instant. Si l'erreur, elle n'est pas manifeste, si c'est pas 100%, on se dit là, il y a une grosse erreur, on revient pas dessus.
Mais justement, ça revient à ce qu'on disait hier lors de l'émission. La VAR aujourd'hui, ou le VAR, je sais pas, en gros, il faut que ce soit une aide à l'arbitrage. Ce qui veut dire que c'est à l'arbitre de solliciter le VAR. Et non pas que le VAR doit intervenir dans l'oreillette pour dire tiens, attends, tu t'es peut-être planté là, ici. Non. S'il y a un doute de la part de l'arbitre, c'est à l'arbitre de dire bon, là, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? La démarche doit venir de l'arbitre et non du camion en soi.
Oui, mais sauf que l'arbitre n'a pas les images, donc tu reviens toujours au même problème. Il peut oublier ou ne pas voir quelque chose. Non, mais qui est pourtant flagrant.
Ouais, d'accord, mais si c'est flagrant,
il ne voit pas quelque chose regarde, qui est.
S'il y a le Real,
qui se passe dans son dos.
L'exemple du Real. Le Real Madrid, PSG, oui. Tagué qui va faire la poussette oui. sur Casimiro, c'est ça
oui, oui.
Et alors, au lieu d'avoir un pénalty carton
jaune. Oui, ça, là, on voit que l'arbitre le voit.
Mais là, il le voit, il voit tout. Qui va dire derrière? Justement, c'est comme le VAR, c'est le camion qui lui dit « Attends, regarde la faute là, parce que oui, mais à vitesse réelle, j'ai rien sifflé. Non, mais va voir la faute quand même. »
Non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus, sur ce cas-là. Mais s'il ne voit pas, le VAR normalement est là pour justement dire à l'arbitre « Attends, François, t'as pas vu cette main ?»
Justement, François, t'as pas vu ce geste-là. Il met la pression sur l'arbitre qui, lui, doit aller se déjuger ou pas. Alors que si c'est quelqu'un dans un camion qui, lui, est quand même normalement au calme, lui, il peut regarder les images deux, trois fois. Bon, franchement, pour moi,
je ne voulais pas faire de débat forcément sur le VAR, même si je crois que ça fait partie de ton vœu. Voilà. C'est un de tes vœux 2020.
Qu'on utilise un peu mieux le.
Ah, je crois que c'était de supprimer le VAR. Parce que,
De supprimer,
ça n'arrivera pas.
J'ai entendu Jonathan qui disait que ça n'arrivera pas. Et malheureusement,
oui, ça
sera difficile. Mais en tout cas, il faut absolument s'inspirer. Et encore une fois, c'est loin d'être parfait en Angleterre.
Il y a beaucoup de débats en Angleterre là-dessus.
Bien sûr, mais il y a des choses qu'ils font que je trouve très intéressantes.
On va, avant de s'intéresser au mercato, dans 15 minutes, il y aura les infos mercato du jour, hein, puisque vous le savez, depuis minuit, les clubs anglais et français notamment peuvent recruter. Mais d'abord, on va s'intéresser à l'équipe de France, qui a un objectif, c'est de faire se doubler Coupe du Monde. Euro, comme il l'avait fait en 98-2000. Là, c'est pour l'Euro 2020. Si on prend les Bleus, champions du monde en 2018 d'ailleurs, entre l'Euro 2016 et le Mondial 2018, il y avait seulement 9 sur 23 qui avaient participé à l'Euro. Donc, la question qu'on vous pose ce soir, c'est à quoi ressemblera l'équipe de France à l'Euro 2020. Vous pouvez réagir évidemment sur Twitter, sur l'hashtag AMC Live ou encore au 32-16 où Damien nous attend déjà. À quoi va ressembler cette équipe de France est-ce qu'elle va être très chamboulée par rapport à ce qu'on a vu par rapport au Mondial 2018?
Je pense pas. Je pense que on est dans une configuration qui est très différente de l'entre Euro 2016 et l'entre Coupe du Monde 2018. Alors pas seulement parce que t'as gagné la Coupe du Monde de 2018, mais y a pas vraiment d'évidence qui se sont imposées. Alors il y aura des changements. Je pense que des joueurs comme Coman et Martial qui n'étaient pas là à la Coupe du Monde, là, je pense que ils sont dans le bon wagon. Mais tout va dépendre en fin de compte des blessures. Mais le groupe, le noyau dur, ce sera le même. Ça sera le même. Il y aura Griezmann. Il y aura Mbappé, il y aura Varane, il y aura le changement, il y aura quelqu'un d'autre à côté de Varane, c'est parce que Umtiti et sa situation est compliquée. Il y aura Hugo Lloris au milieu de terrain, il y aura Paul Pogba qui revient à la compétition.
Il est blessé, on ne sait pas comment ça va se passer.
Il sera rétabli à temps. Il y aura N'Golo Kanté. L'architecture sera la même. Ça sera juste à la marge sur les joueurs. Je pense que des joueurs comme Nabil Fekir et Florent Thauvin qui étaient à la Coupe du Monde 2018, j'ai quelques doutes, même des gros doutes quant à leur participation. Mais
qui à leur place?
Comment et Martial qui n'était pas à la Coupe du Monde, par exemple.
Difficile aussi pour Lemar, on peut citer Lemar qui est en difficulté avec l'Atlético de Madrid. Giroud, vous n'en avez pas parlé, mais c'est la grande question, est-ce que Giroud sera là pour le
finir? Giroud sera là pour tout le monde. Il ne faut pas comparer le cas d'un Coman ou d'un Martial avec celui de Florent Thauvin qui va reprendre.
Tu parles de Fekir, il y a beaucoup de monde quand même.
Difficile pour lui.
Ouais, mais il y a quand même, regarde, Mbappé, Griezmann, Kanté, même si Pogba est blessé, on sait
que. Dis-moi les joueurs facile parce que j'essaie de faire mon équipe. Franchement, c'est compliqué.
C'est compliqué. Ousmane Dembélé est blessé.
Ouais, lui c'est difficile.
De toute manière,
Non,
parce que moi je t'ai parlé de base et la base du système offensif des Bleus, c'est Griezmann et Mbappé.
Ok, si on a un des deux qui a un souci, comment on fait?
Ouais, mais alors attends, là,
oui, mais bon, tu m'as parlé de deux joueurs sur 22.
Je veux vous contrer parce que le temps Mbappé et Griezmann,
moi, je pense que
à sauf accident, catastrophe industrielle, ils seront là et ça sera la base système offensive des Bleus. Faudra voir qui les accompagne. Kevin, Fekir et Thauvin, c'est des joueurs à la marge. C'est pas grave à la rigueur.
Moi, je parle
pas joué.
Tu as demandé l'équipe. Moi, j'ai fait une équipe. Je sais pas si on peut la donner.
Bien sûr.
C'est une équipe que Didier Deschamps en a beaucoup parlé. Alors, je ne sais pas s'il va le faire. Moi, en tout cas, si j'étais dans son cercle, je lui aurais conseillé. Voilà. Bon, forcément, Hugo Lloris dans les buts, il se remet rapidement.
C'est quoi le système?
Justement, Hugo Lloris dans les buts. Et ensuite, moi, je fais un sorte. Bon, alors aujourd'hui, on dit 3-5-2, 3-4-3. Okay. Tu vois, je dis avec une défense costaud, solide, comme on dit, avec Hernandez de gauche vers la droite, Hernandez, Varane, ou Hernandez, l'anglais, Varane, les trois. Mm-hmm. Voilà. Après, à gauche, et c'est là où c'est pas facile, mais aujourd'hui, j'ai encore commenté Everton aujourd'hui, ce qu'il propose dans une défense à trois, que ce soit Digne ou Sidibé, j'ai pas l'impression qu'il y ait mieux aujourd'hui. Maintenant, s'il y a un joueur qui se dégage, tant mieux. Et après, un milieu de terrain à trois avec Matuidi, Kanté et Pogba. Et les deux devant, Mbappé, Griezmann, débrouillez-vous, faites-nous plaisir. Vous n'avez même pas besoin de beaucoup défendre parce que derrière, il y a du solide. Voilà mon équipe de France pour l'Euro à l'heure d'aujourd'hui.
C'est pas mal.
Défensif quand même.
Non, mais après, c'est vrai que c'est assez défensif.
Mais justement, le truc, moi,
non, mais c'est Didier Deschamps.
Mais parlez, ouais, mais regarde Didier Deschamps. J'ai quand même écouté l'interview qu'il a fait avec.
Très intéressant.
Exactement, avec Roten Régal. Mais c'est surtout la manière dont va être attendue l'équipe de France. Tu vas être obligé de t'adapter au bout d'un moment à l'adversaire qui ne voudra plus sortir, qui restera devant aussi. Son but, qui se projettera que 2-3 coups par match.
Oui, là, t'as de la qualité au milieu.
Ouais,
quand
d'accord.
Même.
Mais peut-être justement dans le profil des joueurs qu'il choisira, certainement, il va devoir prendre en compte ça. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai aimé, c'est l'équipe de France, la progression de l'équipe de France qu'on voyait en 2018. Pour lequel, quand même en ayant soulevé la coupe, bah, j'ai pas vibré en soi, malgré les contre-attaques, tout ce qu'on veut, moi j'ai pas eu tout vibré. Mais en revanche, l'équipe de France qu'on voit là depuis ces derniers temps, où bah, allez, ça recherche un peu plus les combinaisons, ça joue un peu plus au foot, il y a une possession qui est plus importante, bien que la possession, on s'en fout, hein, s'ils ont
gardé
la
possession, tu sais,
mais que t'as un jeu énergique et
on peut aussi défendre avec le ballon. Hein,
c'est exactement, bien. Et c'est pas dérangeant. Mais voilà, je pense qu'il va falloir. Pour Didier Deschamps, peut-être avoir une corde de plus à son arc. Et là, comme tu as dit, la défense à trois avec deux latéraux voilà. qui sont super hauts contre des bocs compacts.
C'est ça, ça peut marcher. C'est ce qu'il a fait contre l'Albanie, voilà. La défense à trois. Pour la première fois, Didier Deschamps a tenté
et
ça.
Pour compléter ce que tu dis, moi à droite, j'ai marqué Sidibé / Sissoko. Pas parce que je suis fan de Sissoko, mais parce que je sais que Deschamps aime Sissoko et qu'il est plutôt bon.
En piston droit, ça peut être pas mal.
Mais en piston droit, dans un match où tu sais que tu vas beaucoup avoir le ballon. Voilà, c'est des possibilités. Par contre, je me dis quand même, et c'est là où j'en reviens.
Mais quand il a joué avec trois défenseurs, il avait joué quand même avec trois offensifs. Hein. C'était contre l'Albanie, mais il avait mis Griezmann, Giroud et Ben Yedder.
Non, mais pour moi, je mets Pogba, Griezmann et Mbappé. Pogba dans un rôle comme il a un peu à Manchester en ce moment,
de numéro 10.
En sachant qu'en Albanie, normalement, Mbappé, Griezmann, parce que Mbappé était malade.
Mais moi, je pense
pas Payet d'aujourd'hui dans
ça.
Le groupe.
C'est ce que j'allais exactement dire ça. Je pense qu'il faut pas non plus oublier la saison de Dimitri Payet, qui est vraiment en train de faire une belle saison. Après, attention, hein. Faut voir comment c'est en seconde partie de saison.
Oui,
voir
bien sûr. Il l'a dit lui-même dans une interview très intéressante après le dernier match de l'OM.
Mais c'est quand même un joueur qui a un profil rare en France.
Damien Périnel. Un autre Damien est au 32-16 à 22h38 dans l'after. Bonsoir Damien.
Bonsoir messieurs, bonne année, meilleurs vœux à tous les auditeurs également. Alors, écoutez, moi, je suis dans votre, je vais être dans votre sens. Par contre, le 3-5-2 qui a été annoncé, je le trouve extrêmement défensif. Et dans ce style-là, je vois pas comment on pourrait jouer avec de tels joueurs contre des grosses équipes. C'est beaucoup trop défensif, même si Paul Pogba, dans ce système, pourrait avoir un rôle bien plus offensif.
Juste une chose, si tu me permets. Alors, je pense pas que tu regardes pas forcément les matchs de Sheffield United. Tu vois, Sheffield United, ils ont des défenseurs centraux. Donc en l'occurrence là, que ce soit Hernandez par exemple, qui sont capables d'aller te faire un centre au poteau de corner et jouer à trois derrière, tu vois ce que je veux dire ? Donc
non,
après c'est l'animation qu'on en met, mais c'était une variante qui peut aussi se retrouver à quatre et mettre Hernandez sur le couloir parce que pour moi il est meilleur que Digne. Mais Hernandez ça reste un défenseur central.
Alors non, mais je dis pas que c'est pas une belle équipe au niveau des joueurs. Après j'ai du mal à imaginer l'animation de l'équipe avec
l'animation
joueurs.
C'est Pogba à la passe qui lance de bons ballons dans les intervalles.
Ça peut être viable si tu sors Matuidi et que tu mets un joueur offensif en plus.
Tu peux aussi mettre Lemar à la place ou Payet.
Tu peux mettre Dimitri Payet en numéro 10 derrière Mbappé et Griezmann aussi.
Ouais,
c'est ce que j'avais écrit aussi.
Mais pourquoi Griezmann, vous voulez le mettre absolument à ce poste-là? Griezmann, c'est le meneur de jeu de l'équipe de France. Pourquoi c'est pas lui
décrocher pour faire jouer?
Bah oui, mais il décroche et devant lui, mettez deux attaquants. Donc vous mettez Mbappé, Ben Yedder.
Mais tu sais pourquoi, François?
Ouais, mais on n'a pas le deuxième.
Parce que ça peut être Ben Yedder. Mais parce que pour moi.
Ça peut être Lacazette aussi.
Aussi, mais on sait que c'est mort.
C'est difficile.
Parce que pour moi, Griezmann, son meilleur poste, c'est quand il joue à deux devant. Et quand il joue 9,5. Et le fait de l'avoir plus proche de la surface de réparation, je pense que c'est le joueur le plus efficace
depuis
face au but.
Depuis un certain temps, on le voit avec l'équipe de France, il redescend beaucoup. C'est lui vraiment qui touche le plus de
ballons. Mbappé compris, François. Je pense que Griezmann.
Peut mettre Mbappé Martial dans un match.
Mbappé compris. Mbappé compris. Griezmann est le joueur le plus efficace face au but.
Oui, c'est vrai. Tu as raison.
Oui, mais Griezmann peut jouer derrière et Giroud et Mbappé. C'est-à-dire qu'en dans un poste de 10, il est capable de jouer
avec des latéraux très offensifs qui ont on va envoyer des bons centres à Giroud, bien sûr qu'il sera dans la sélection.
Après, au bout d'un moment, voilà, si tu prends un peu de recul et t'es, tu peux pas mettre que des offensifs, que des défensifs et ainsi de suite.
Oui, c'est une animation. Après.
Bien sûr, t'as une animation, t'as une question d'équilibre qui sera ultra importante.
D'ailleurs, dans cette fameuse interview, je pense que Didier Deschamps a prononcé le mot d'équilibre à peu près 200 fois.
Mais c'est logique. Mais c'est surtout, on oublie que l'Euro, c'est pas un championnat, c'est un tournoi, l'Euro. Donc l'Euro, t'es là pour faire en fonction aussi de tes adversaires. Malheureusement, c'est comme ça qu'on a été champion du monde. C'est en prenant en compte toujours l'adversaire. Et aujourd'hui, sauf que là, maintenant, on est champion du monde. Donc les gens vont faire en fonction de nous aussi. Donc maintenant, ça va être à Deschamps. Quand on parle de la défense à 3, par exemple,
de surprendre un peu.
Va falloir surprendre la défense à 3. On a que 3 axiaux de haut niveau. Bah, en soi, derrière.
En axel, t'as Kimpembe, t'as Pavard.
Ah, mais Kimpembe,
peut-être qu'on
n'est
pas aimé, mais Pavard, il est meilleur.
Depuis le début de la saison. Kimpembe est très fort depuis le début de la saison, il revient à son meilleur niveau.
Oumtiti, s'il retrouve du temps de jeu quelque part.
Sur Format, il a été bon, Kimpembe. Reste.
Kimpembe, il a été bon dans les matchs de Ligue des Champions.
Je suis pas d'accord. Sur Format, il a été énorme. Après, c'était plus difficile.
Et attendez juste, parce que là, Kevin, tu commentes la PL. Il est comment, Benjamin Mendy?
Franchement, il a été très bon aujourd'hui. Ouais. Vraiment,
il revient bien. Plus de mal le match précédent.
Ouais, mais là, moi, je trouve qu'il revient bien. Il a fait des bons centres. Il a été très actif avec le ballon. C'est ce que je disais pendant le match, mais également sans, où il a fait beaucoup d'efforts dans son remplacement. Tu sais ce que demande Guardiola à la perte de balle, d'aller agresser et de façon intelligente, sans faire faute, pour récupérer le ballon assez haut. Moi, je l'ai trouvé très bon. Sidibé, je l'ai trouvé très bon dans ce mois de décembre complètement. Digne, il a été assez gêné par des blessures. Mais au niveau des latéraux, on le sait, hein, c'est un peu le problème de l'équipe de France. C'est pour ça que Pavard et Hernandez qui sont des centraux.
On va remercier Damien. Merci beaucoup d'être passé dans l'after. Et on va prendre Jean-Marie au 32-16. Bonsoir Jean-Marie.
Bonsoir Jean-Marie.
Est-ce que tu nous entends Jean-Marie? C'est à toi, tu es en direct. Jean-Marie, une fois.
Oui. Bonsoir.
Salut Jean-Marie.
Bonsoir, bonne année Jean-Marie.
Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année.
Jean-Marie.
Merci mon pote. Tous les footeux, tous les passionnés.
Sur cette équipe de France, à quoi elle ressemblera, à ton avis, pour l'Euro 2020?
Alors moi, je vais créer une surprise. Je vais créer une surprise. Alors, pour le dire, parce que je suis marseillais, que je suis chauvé, mais je pense qu'il y en a un qui ne sera pas très loin de la portée de l'équipe de France. Ça ne sera pas Payet pour moi. C'est Payet.
Rongier.
Il y a Rongier. Je pense que ça sera Rongier, tout à fait.
Ouais, mais il y a beaucoup de monde quand même au milieu de terrain.
Bah dans ce cas-là, Sanson ne sera pas loin non plus. Hein.
Il y a une différence.
Attends, c'est fini, Jean-Marie. Vas-y, Jean-Marie.
Pour vous dire vrai, Sanson aujourd'hui, par rapport à la saison de l'année dernière, si effectivement il fait une belle saison, c'est parce qu'à côté de lui, il y a quand même Rongier.
Ouais. Exactement, voilà. Jean-Marie.
Donc le milieu de terrain, le milieu de terrain tourne aujourd'hui, parce que Rongier est arrivé, Sanson, Camara, donc effectivement, c'est le milieu de terrain. Il est à l'Olympique de Marseille. Mais moi, je vous le dis franchement, je focalise sur ce joueur depuis quelques temps que je vais au stade. Et je trouve que c'est une personne, je pense que c'est un peu la mèche de l'époque. C'est-à-dire qu'il récupère un maximum de ballons. Il en perd très peu, très précis.
Il est très simple.
Toujours là-bas.
Oui, d'accord, mais est-ce que la Dèche, comme tu dis, ou Didier Deschamps de l'époque, aujourd'hui dans le football actuel, aurait sa place en équipe de France?
Non, c'est pas ça la question. Est-ce que la Dèche aurait sa place dans l'équipe de Deschamps?
Peut-être.
Au niveau des profils.
Oui,
tu vois ce que je veux dire, Jean-Marie? Parce que moi, je suis complet. Alors là, je te taquinais un peu avec Sanson, que je trouve un bon joueur, mais c'est vrai que Rongier. Et en plus, attention, tu sais pourquoi Rongier, il faut lui tirer un grand coup de chapeau? Parce qu'il a quand même été, comme on dit, tiré comme un lapin quand il arrive à Marseille. Il y a eu beaucoup de critiques et il a su les assumer, même si je pense que Villas-Boas a été intelligent dans sa gestion, où il l'a fait attendre, il l'a fait un peu patienter. Mais vraiment, c'est un bon joueur. Maintenant, c'est pas le poste où en équipe de France on a besoin de joueurs.
Il y a du monde. Et je pense, Jean-Marie, qu'un joueur comme Jordan Vertu est quand même plus fort et devant Valentin Rongier, dans le même profil.
Après, attention, comme tout à l'heure je disais à votre collaborateur, c'est qu'effectivement, la Dèche, on le connaît, il ne change pas grand monde. Tout à l'heure, vous avez entendu, vous avez parlé de Sissoko, il y sera, Giroud, il y sera, Pogba, même si effectivement, il reprend Katen, il y sera.
Oui, mais Sissoko, il n'était pas au Mondial, par exemple, hein, donc il fait certains choix, attention. Hein. Il les surveille, tout ça.
Mais là, il est titulaire, là, tout de même, Sissoko.
Quand il manque du monde, il met qui? Il prend Sissoko. Il fait son assurance défensive du costaud.
Oui, non, bien sûr.
Hein, voilà. Bon. Offensivement, on a ce qu'il faut. Je pense pas qu'il y a.
C'est là où il y aura du changement, Jean-Marie. C'est offensivement. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, je pense que Thauvin et Fekir ne seront pas là. Lemar, Lemar, il y a de grandes chances qu'à mon avis, il n'y soit pas non plus. On aura Coman et Martial, je pense. Rappelez-vous, juste revenons en 2016. Si en 2016, on vous avait dit que Coman et Martial ne seraient pas à la Coupe du Monde, personne n'y aurait cru. Donc les choses quand même vont quand même relativement vite. Mais là, je pense que les deux y seront. Et je pense qu'il va rester une place à prendre. Et je pense sincèrement que de par son profil et de par ses performances, Dimitri Payet a une carte à jouer.
Il n'y a pas que l'Euro 2020 aussi. Hein. Il y a les JO. Les JO en 2020.
Attends, Jean-Marie.
Il y a les JO 2020. Et alors, est-ce que cela va influencer une liste éventuelle? Je ne sais pas. Mais par exemple, Upamecano aurait pu éventuellement, moi je pense, intégrer la liste.
Ouais,
maintenant, s'il y a un doute, le moindre doute, je pense que ça reste avec les espoirs.
Merci beaucoup Jean-Marie, merci d'être passé dans l'after.
Ciao Jean-Marie.
Et on te souhaite une bonne année avec l'Olympique de Marseille, évidemment. Arsenal, Manchester United, Clément Brossard, le score à quelques minutes de la fin.
Encore une minute à jouer dans le temps réglementaire. 2-0 pour Arsenal face à Manchester. Les buteurs Nicolas Pepe et Sokratis. Manchester qui a globalement dominé cette seconde période. Heureusement, David Luiz et Sokratis font un abattage impressionnant derrière. Également Granit Xhaka qu'on a annoncé du côté du Hertha Berlin cet hiver. Ce sera une vraie bonne pioche de le garder. C'est ce que veut Mikel Arteta. Et pour l'instant, c'est lui qui contrôle le milieu chez les Gunners. Une minute à jouer encore. Arsenal mène 2-0 face à Manchester.
Et on suit la fin du match dans un instant avec toi, Clément, et également les infos mercato du jour avec Valentin Jamin. On va parler notamment du Stade Rennais. Alors restez bien à l'écoute. À tout de suite dans l'After.
RMC.
L'After Foot.
François Pinet.
Bonne année à tous les amoureux du MHSC. Nerveux. Bonne année à la paillasse.
Salut à tous. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Beaucoup de bonheur à tout le monde et venez nous supporter à la mousson.
Bonne année à tous les supporters et allez la paillasse.
Ça avait l'air d'être la fête du côté de Montpellier pour les vœux, vous l'avez entendu.
Qu'est-ce que c'est nul.
On leur souhaite une bonne année.
C'est nul. Mais je pense qu'il faut voir la vidéo.
Ils rigolent, à mon avis.
Voir la vidéo, je pense que c'est dérisoire.
Ouais, ça doit être du second degré.
Parce que je pense qu'ils s'amusent vraiment entre Savanier, Delors et compagnie. Je pense que le vestiaire doit
Vous l'avez compris, Damien Perrinel, Jonathan McCardy, Kevin Diaz sont là. Continuez à nous appeler au 32-16 si vous avez d'ailleurs un vœu pour le foot en 2020 ou encore sur Twitter.
François, moi, mon vœu principal, je le cache pas, c'est que l'Irlande passe les barrages et qu'on aille à l'Euro.
Ouais.
Les barrages vont être compliqués.
Principal, en plus, t'as Leeds aussi qui doit monter en première ligue.
Le vœu principal, c'est ça, c'est qu'on aille à l'Euro quand même.
D'accord.
Le
principal, c'est que... avec le micro, Kevin, vas-y.
Pardon, le vieux principal, c'est peut-être que Bielsa entraîne l'Irlande.
Ça serait magnifique. Ça serait extraordinaire.
Dans un instant, on débrief la 21e journée de Premier League, marquée notamment par la défaite de Tottenham à Southampton, le nul de Chelsea à Brighton, et puis bien sûr, Arsenal, Manchester United, Clément Brossard. On s'approche de la fin.
Ouais, les trois dernières minutes, on est dans le temps additionnel et Arsenal qui tient cette victoire ô combien précieuse. Arsenal, 12e de Premier League avant ce rendez-vous, qui est en train de revenir à un petit point, à quatre petits points, de Manchester United qui se fait du bien, se donne de l'air grâce notamment à une grosse défense très impressionnante du côté d'Arsenal. Ils ont souffert toute la seconde période, mais il fallait remonter surtout au 6 octobre pour voir la dernière victoire à domicile à l'Emirates Stadium, et on se dirige vers une première victoire de l'ère Mikel Arteta du côté d'Arsenal. Encore 2 minutes à jouer dans le temps additionnel, 2-0 pour Arsenal grâce en partie à Nicolas Pepe et Sokratis.
Tu nous appelles dès le coup de sifflet final, on débriefera cette rencontre avec Julien Laurence. On parle du mercato d'hiver tout de suite.
C'est combien ?
30 000.
Attends, je vais te le marcher.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
Valentin Jamin est avec nous. Salut Valentin.
Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous, et bonne année.
Bonne année,
tous,
Valentin.
Évidemment.
Bonne année,
Valentin.
C'est officiel, le Stade Rennais ne recrute pas, et non, désolé les supporters, mais se sépare d'un attaquant.
Exactement, c'est Diafra Sakho, 30 ans, il a résilié son contrat avec le Stade Rennais qui courait jusqu'en juin prochain. L'attaquant international sénégalais n'a pas réussi à s'imposer en attaque, il n'a pas été utilisé une seule fois cette saison. L'an passé, il était prêté à Bursaspor en Turquie. Donc voilà, Diafra Sakho s'en va. L'occasion de rappeler, messieurs, que le Stade Rennais cherche a priori un attaquant explosif, un attaquant de rupture pour se renforcer. Rennes, 3e, on le rappelle. Est-ce que ce serait pas cet hiver le mercato ou jamais pour recruter intelligemment et aller chercher quelque chose en fin de saison quand on voit que les Monaco, les Lyon, voire les Lille parfois ne sont pas vraiment là? Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais il y a Sibatcheux aussi qui risque de partir.
Il y a Sibatcheux qui n'est pas très utilisé, qui n'est pas très en confiance non plus.
Ouais, mais il y a une rumeur comme quoi il partirait cet hiver même. Donc oui, c'est obligatoire pour eux de recruter. Ils sont un petit peu courts devant. Tu ne peux pas faire toute la saison avec le seul Mbaye Niang, qui n'est pas non plus une machine à marquer des 8. Tu fais des bonnes prestations.
Il y a eu nous aussi. Hein.
Ouais, il y a eu. Mais. Ouais. Ouais. Mais les deux, en fait, ils font pas des mauvais matchs, mais c'est pas des machines à marquer des buts.
8 buts pour Nyang, oui, en Ligue 1.
Est-ce que vraiment, quand tu es Rennes, tu peux trouver une machine à marquer facilement en janvier?
Un joueur, non, c'est ça. Et le problème, c'est qu'on, sur ce mercato-là en janvier, c'est compliqué. Mais ce qui leur manque, en tout cas, c'est sûr, c'est l'âge de joueur qui te donne l'assurance d'avoir la quinzaine de buts par saison. Et là, ils passeraient vraiment un cap.
L'AS Saint-Etienne, de son côté, vise un latéral gauche. Et là, on va pouvoir en parler avec vous parce que j'ai l'impression que tous les clubs cherchent un latéral gauche.
Exactement. Il s'agit de Christopher Opéry qui est ciblé par les Verts. Jeune latéral gauche de 22 ans. Il évolue actuellement en Ligue 2 à Châteauroux. 14 matchs cette saison en championnat, un but. Il est en fin de contrat cet été et Saint-Etienne aimerait se renforcer à ce poste dès cet hiver. C'est un latéral un peu moderne, offensif, hein, qui a du coffre. Puel fait jouer parfois son équipe, souvent en 3 derrière et 5 au milieu avec deux pistons. Donc pourquoi pas ce type de profil, jeune joueur de Ligue 2, offensif.
On en reparle tout de suite, mais c'est fini. Arsenal, Manchester United, Clément Brossard.
Les bras de Mikel Arteta levés au ciel de l'Emirates Stadium. Arsenal s'impose enfin 6 octobre, la dernière victoire des Gunners à l'Emirates Stadium. Et après 4 matchs sans victoire en Première Ligue, eh bien Arsenal tient enfin sa victoire, celle qui pourra peut-être relancer les canonniers dans cette Première Ligue. Arsenal revient à 4 points de Manchester United. Coup d'arrêt pour des Red Devils qui ont sombré en première période par des buts de Nicolas Pépé et de Socratis qui ont tout tenté en seconde période mais qui auront été confrontés surtout à un exemple de défense signé Arsenal, signé David Luiz et Socratis. Belle performance également de Granit Xhaka et puis vous en parliez dans l'émission, un petit mot de Alexandre Lacazette, il n'a pas été flamboyant c'est sûr ce soir, il est surtout sorti sur blessure à 10 minutes de la fin, lancé en profondeur, il a un peu marché sur le ballon et sa cheville s'est tordue, à suivre dans les prochains jours, voir si la blessure n'est pas si grave que ça. En tout cas, on retiendra le succès d'Arsenal 2-0 face à Manchester. La première d'Arteta avec les Gunners. Arsenal est relancé.
Et on en reparle dans quelques minutes seulement sur RMC. Les latéraux gauche, c'est vrai que ça c'est une denrée rare, on le disait. Il y a beaucoup de clubs qui en cherchent. Il y a notamment l'Olympique Lyonnais qui cherche un latéral gauche. Il y a Bordeaux aussi.
Pour l'Olympique Lyonnais, moi j'ai un nom hein, qui est au FC Porto depuis bien trop longtemps.
Je crois que tu allais dire Kevin Diaz.
Non. Mais il y a quelques années peut-être. Mais,
ah oui, carrément.
Mais
en toute modestie, vu ce qu'ils ont depuis.
Mais moi, il y a un joueur qui s'appelle Alex Telles, qui est brésilien, qui joue à Porto, qui je pense aurait besoin d'une nouvelle aventure et qui
est passé par Galatasaray, c'est ça.
Ouais. Ouais. Pour Saint-Etienne. Je pense que même si alors il a montré des bonnes choses mais il a pas été hyper régulier. Traoko ça reste quand même un bon joueur, il faut lui laisser le temps de s'adapter, tu vois, à découvrir le championnat de France.
13 matchs cette saison en Ligue 1.
Ouais, mais il a beaucoup joué mais il a pas toujours été voilà à son meilleur niveau, niveau qu'il peut avoir avec la sélection péruvienne, et si Puel joue de plus en plus à 3 derrière, il sera comme un poisson dans l'eau.
En revanche, on peut rebondir sur le fait du poste de le poste latéral droit, latéral gauche. On peut peut-être penser que c'est un poste qui a été laissé pour compte en formation, au centre de formation, où on n'a pas vraiment de spécialistes. Et aujourd'hui, tout le monde est en besoin à ce poste-là. C'est-à-dire que demain, j'ai un neveu ou quoi. Toi, tu vas jouer latéral gauche. En plus, t'es gaucher, mais tu seras sûr d'avoir un club. C'est-à-dire un joueur moyen aujourd'hui à ce poste-là peut jouer dans un club.
On les a, mais le problème c'est qu'on les a plus en France.
Non, mais c'est même pas.
Regarde, les Ferland Mendy, Benjamin Mendy, c'est quand même des joueurs qui viennent de la formation française.
Moi,
c'est
juste qu'il y a un déficit au niveau de la formation.
On nous les a vite pris.
C'est peut-être un déficit au niveau de la formation, mais c'est surtout un problème technique et un problème qui est tactique, dans le sens où aujourd'hui dans le football moderne, le poste de latéral, comme beaucoup, mais surtout celui-ci, en fait on lui demande de savoir tout faire.
Ouais.
On lui demande de savoir attaquer et on lui demande de savoir défendre.
Ils savent attaquer, mais ils savent pas défendre généralement.
Oui, mais bon,
parce qu'on fait jouer des joueurs offensifs.
Voilà, on fait jouer des anciens, anciens ailiers.
Corona, par exemple, ouais. Corona, ouais, Porto, voilà.
Mais voilà, on fait jouer des anciens ailiers qui sont reconvertis à ce poste de latéral gauche.
C'est soit des anciens ailiers, soit par exemple des joueurs qui ont été formés défenseurs centrales qu'on décale sur un côté. Par exemple, à Nice, c'est pas forcément une réussite.
C'est difficile d'avoir un joueur qui a joué toute sa carrière à ce poste-là, parce qu'aujourd'hui, on leur demande tellement d'être offensif.
Par exemple,
Pavard, ouais. Ça, c'est plutôt à droite. Mais ouais, c'est pareil, c'est le même problème. Monaco, de son côté, Valentin enregistre un retour.
Et oui, prêté à Santos depuis plus de 6 mois, le latéral gauche brésilien.
Ah, alléluia, il y en a un.
Jorge, voilà, après son retour à la Turbie pour la reprise de l'entraînement avec l'AS Monaco, il était arrivé sur le rocher en janvier 2017 et donc comme tout l'effectif monégasque, il va avoir quelques jours pour essayer de convaincre son nouvel entraîneur espagnol Robert Moreno de lui faire confiance. Il est engagé jusqu'en 2021 avec Monaco. On va rappeler quand même que Monaco doit dégraisser hein, puisqu'il compte 73 joueurs sous contrat.
Et puis direction l'Allemagne où Simon Fallett est convoité par Cologne.
Et oui, titulaire à une seule reprise cette saison avec l'Eintracht Francfort. Fallett devrait quitter le club allemand cet hiver. On rappelle que le défenseur central franco-guinéen, il est passé par Metz avant de rejoindre l'Allemagne. Donc il est en contact avancé avec Cologne. Cologne 15e de Bundesliga qui négocie un prêt avec option d'achat. Cologne a un temps d'avance dans les négociations, mais Fenerbahçe, le club turc, est également venu pour se renseigner ces derniers jours.
Et puis cette info dont on va reparler dans à peine 4 minutes avec Julien Laurence, Wayne Rooney de retour au pays.
Exactement, c'est officiel. Il a signé à Derby County en Championship D2 anglaise un an après avoir quitté Everton pour DC United aux États-Unis. Il est donc de retour chez lui, Rooney, 34 ans. Il a signé un contrat d'un an et demi. Il sera entraîneur-joueur puisqu'il assistera le coach néerlandais Philippe Cocu.
Et c'est un deal qui a été fait depuis le mois de juillet.
En octobre, on savait après la fin de saison.
C'est étonnant quand même, entraîneur-joueur pour un club de championship, de deuxième division anglaise, c'est quand même surprenant.
Il épaulera l'entraîneur principal.
Bon, tu vas me dire Compagny, je crois qu'il est entraîneur-joueur aussi à Anderlecht.
Maintenant, il a arrêté de jouer, justement. Trop de problèmes. Ou alors, je crois qu'il est devenu que joueur ou que entraîneur, mais il ne peut plus cumuler les deux.
Ouais, mais c'est compliqué,
Est-ce qu'on sait si ça se passe bien pour Samir Nasri là-bas?
Ah, c'est une bonne question.
C'est une nouvelle.
Bah, on va demander à Sacha.
Ça se passe pas mal pour Nasser Chadli.
Non, mais je pense que Anderlecht a très mal commencé là-bas et ça avait été mis sur le dos de Compagny et de Nasri. Alors après l'évolution, je sais pas laquelle est-elle, mais.
Oui, et puis une dernière info, Valentin, Wilfried Zaha qui est pisté par Chelsea.
Et oui, le joueur de Crystal Palace est évoqué par la presse anglaise pour épauler Tammy Abraham en attaque chez les Blues. Ce qui pourrait poser problème, c'est que l'ailier ivoirien de 27 ans coûte cher, 90 millions d'euros.
Oh là
la piste, oui, c'est très cher. Il avait marqué 10 buts et 10 passes décisives la saison passée en Première Ligue. C'était un petit peu plus compliqué là. Pour l'instant, cette saison, 3 buts seulement. Donc voilà, 90 millions d'euros. La piste, ça pourrait être de l'échanger avec un joueur, pourquoi pas. Et le coach des Blues, Frank Lampard, a été questionné sur le sujet, mais il n'a pas souhaité répondre après le nul cet après-midi contre Brighton. Il a simplement dit je ne parlerai pas de lui parce qu'il n'est pas tout simplement un de nos joueurs.
Merci beaucoup, Valentin. Tu reviens quand tu veux dans l'after. Et justement, puisque tu parles de mercato anglais, on va en parler avec Julien Laurence. Peut-être que les grosses écuries vont se renforcer cet hiver. On parlera bien sûr des résultats de la 21e journée, notamment de la victoire à l'instant d'Arsenal face à Manchester United 2-0 et puis de la victoire de Manchester City, de la défaite aussi du Tottenham de José Mourinho. On parle de tout ça dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.